There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Un épisode, honnêtement, qui aurait pu durer 3 voire 4 heures. Il s'est passé tellement de choses depuis la dernière fois qu'on a enregistré. Mais voilà, on va essayer d'être bref, on va essayer d'être concis. Pour ce faire, on est 3 aujourd'hui et j'ai avec moi un fan des Pistons qui fait son retour. Blake Griffin éliminé, il est revenu, c'est Ilias. Comment ça va, Ilias ?
Ça va plutôt bien, Ben, merci et bonjour à tous les auditeurs. Et effectivement, ces derniers temps, je me suis fait un petit peu rare, comme un bon match de Kyle Kuzma, voilà.
Par contre, le sens du verbe est toujours là. Et puis, Alan. Alors, j'ai écrit entre parenthèses, ça fait 5 ans, j'ai plus d'idée d'intro. Voilà, comment ça va, Alan ?
Ça va et toi ? Ça va super. Très bien en finale de conf, je suis heureux.
Les Hawks sont en finale de conf.
Oui, je commence direct. Hein.
Voilà, ça commence. Cet épisode va être compliqué. Cette semaine au programme, on va vous faire un tour complet de ce qui s'est passé depuis 10 jours parce qu'on s'était quitté avec un live. Voilà, on avait annoncé les Sixers gagnants, les Nets favoris pour le titre NBA, les Clippers morts. Voilà. 10 jours plus tard, le monde à l'envers. Hein, donc on va essayer de comprendre ce qui s'est passé depuis 10 jours. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes où vous nous écoutez, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Podcast Addict, Castbox, bref, il y en a 15 000, hein, chaque fois qu'on regarde les stats, on le voit. Sur YouTube aussi, puis sur Twitter, on marque une pause, on perd pas plus de temps, et on démarre ce podcast bilan des demi-finales de conférence. Désastre, nom masculin signifiant catastrophe, événement funeste, grand malheur, dégâts qui en résultent. Alors, je pensais que c'était une bonne entrée en matière hein, pour parler des Sixers. Alors, je pense que tout le monde aura deviné hein, que j'allais parler des Sixers vu que j'ai commencé avec désastre. On les avait quittés à 2-1, ils avaient gagné les matchs 2 et 3 avec 32 points d'avance. On les retrouve battus 4-3 avec des circonstances totalement incroyables. Je vais faire court, Ilias, comment ils ont fait pour perdre cette série.
Bah écoute, je me pose encore la question. Enfin, le match était hier soir et enfin, j'arrive toujours pas à comprendre comment dans des matchs en plus charnières dans une série, ils ont pu surtout foutre en l'air des avances assez considérables. On peut évidemment mettre en avant le coaching de Doc Rivers qui est malheureusement maintenant un récidiviste à ce niveau-là, qui a perdu énormément de séries au fil des années où il pouvait mener 2-0 comme 3-1. C'est même le recordman à ce niveau-là. On peut évidemment fustiger les pertes de balles, le manque, on va dire, de continuité dans un match aussi de Joel Embiid qui avait souvent tendance à dominer les premières mi-temps mais à s'effacer petit à petit dans les deuxièmes mi-temps et notamment dans le quatrième quart-temps. Et on peut évidemment aussi commencer à ouvrir et peut-être même fermer le dossier Ben Simmons du côté de Philadelphie, qui, voilà, on rentrera un petit peu plus dans les détails dans les minutes à venir, mais qui, je pense, à travers sa série et à travers cette élimination des Sixers, vient mettre fin au process, même si Embiid nous promettait que ça allait faire quelque chose et nous demandait surtout d'y faire confiance.
Ouais, Ben Simmons, Joel Embiid, Doc Rivers, c'est un peu le triptyque qu'on retrouve, même si moi, personnellement, je vous avoue, je trouve que dans ce désastre, dans ce cataclysme, dans cette débâcle, Embiid est un de ceux qui sort un peu la tête. Il joue avec un ménisque en moins, il a des responsabilités offensives, défensives, il a été digne, je trouve, c'est pas le cas de tout le monde, on va y revenir. Alan, est-ce que t'es d'accord pour dire que dans ce désastre, c'est un désastre collectif, dira-t-on?
Ouais, complètement, j'ai même vu des gens sur Twitter remonter, faire tout l'état des séries perdues par Doc Rivers. Bon, c'est un peu drôle et un peu méchant, mais les mecs remontaient à des séries avec le Magic d'Orlando au début des années 2000, genre comme quoi ça faisait 20 ans que le gars, des fois, menait 3-1 et se faisait remonter ou autre. Mais pourquoi on critique Doc Rivers? On critique Doc Rivers pour des choix de coach, c'est-à-dire, bah, tu l'as mentionné depuis 2 semaines, des 5 full banc pour commencer les deuxièmes, les quatrièmes cartons ou finir les premiers et les troisièmes cartons, ce qui font que le 5 de Philly, il a dominé le 5 de Atlanta sur la série. C'est pas vraiment ça le problème. Surtout qu'en fait, c'est à cause des choix de Rivers dans ses rotations, bah, la différence entre les deux 5 au départ, elle s'est réduite. C'est là le boulot d'un coach en fait. Et là, sur ça, il a vraiment pas assuré. Joel Embiid, moi, franchement, j'ai rien à lui dire, je pense. Hein. Franchement, oui, les pertes de balles, il en perd 16 sur les deux derniers matchs. Des passes un peu ratées. Des moments où je trouve aussi qu'il a trop puisé sur son adresse extérieure, mais en même temps, c'est parce que je pense qu'il voulait un peu s'économiser d'être face à Capella pour son genou. Et puis, il y a Ben Simmons, moi, il y a Tobias Harris aussi, je suis désolé, je l'oublie pas. Il était bon face à Washington, il avait été bon, mais on voit que tout simplement, c'est pas ce joueur-là. Alors qu'en plus, DeAndre Hunter était pas là, et je le maintiens, je pensais vraiment que ça allait avoir une clé sur la série. C'est le meilleur défenseur des Hawks. Au poste de Tobias Harris. Il s'est retrouvé Tobias Harris. Sur les 3 derniers matchs, les Hawks jouent avec, dans le 5, Werther, Trae Young et Bogdanovic. Bogdanovic blessé. Donc normalement, si t'es Tobias Harris, tu dois dominer normalement. Tu vas peut-être te retrouver face à John Collins potentiellement, mais que tu peux battre en vitesse peut-être. Ou alors tu vas te retrouver face à Bogdanovic. Tu dois faire mieux que ça. Et non, il a toujours eu autant de soucis. Donc ouais, une défaite collective avec, comme tu l'as dit quand on se parlait hier, simplement je pense Embiid et Curry qui sont les deux seuls qui ont peut-être pas de responsabilité dans ce qui s'est passé.
Tu parlais, on parle, bon, ouvrons déjà d'abord le dossier Doc Rivers, vous l'avez tous les deux mentionné. Ilias, c'est quoi les choix de coach qui t'ont un petit peu le plus surpris? C'est vrai que Alan a mis en avant un élément important. J'ai fait mes petites recherches statistiques sur les 5 premiers matchs, parce que clairement pour moi le match 5 c'est une bascule. Quand le match 5, tu le perds, en théorie, pour moi, je pense même dans mon fond intérieur qu'ils auraient dû terminer cette série. Bref, sur les 104 minutes avec les titulaires, ils ont 21, un net rating de 21. Donc, en gros, ils écrasent le 5 titulaire des Hawks et ils finissent ces 5 premiers matchs-là à 3-2. Ils sont en déficit. Donc, comment t'expliques ça, Ilias, que t'as un 5 majeur dominant? Alors, certes, il y a eu 2 fois plus 16, mais comment tu te retrouves si juste à l'entame des 3 matchs capitaux de cette
série? Tout simplement parce que déjà Doc Rivers a des choix de coach un peu trop figés, là où McMillan a su de temps à autre varier ses 5 et essayer aussi de s'adapter en fonction du 5 qui était proposé en face. Et on s'aperçoit aussi au fil des matchs que le 5, certes, qui peut sembler être dominant statistiquement parlant des Sixers, pouvait aussi être déficient dans des moments où justement le jeu avait tendance à se resserrer et à peut-être devoir proposer autre chose. C'est à ce moment-là justement qu'on est obligé de se refocaliser sur Ben Simmons. Un coach, ça doit aussi savoir faire des choix, et justement c'est ce qui est souvent reproché à Doc Rivers, c'est de ne s'adapter que s'il y est contraint, et peut-être de rester trop figé sur ses positions. À un moment, si t'estimes, et si, comme tu le sous-entends, après le match 7, un joueur devient trop pénalisant, au bout d'un moment, tu dois chercher à trouver autre chose. Et ce, même si, effectivement, sur le banc, t'as pas non plus des options mirobolantes, et même si, effectivement, durant la série, et ça... ça fait partie du jeu, t'as été amputé de l'absence de Danny Green, qui aurait quand même pu te permettre d'espacer et d'avoir une autre option.
Il y a des stats qui sont terribles. Les minutes Howard, Tybull, Hill. Alors déjà, ils jouent 45 minutes ensemble sur la série. Alors déjà là, c'est criminel que ces mecs-là jouent 45 minutes ensemble sur la série. Et alors, ils sauvent les apparences, ils sont quand même 8 de net rating. Il y a les minutes Simmons, Tybull. Tybull qui fait une grosse série défensive, mais ils jouent 68 minutes ensemble sur la série. Et alors là, le comble du luxe, je pense que c'est les minutes Simmons Howard. Il y en a que 15, mais c'est 15 de trop. Elle devrait pas exister. Donc, je rejoins par contre, il y a sur un truc, Alan, c'est que il y a peu d'options. C'est vrai qu'on a vu un Maxi faire un gros match 6. Korkmaz a eu un impact au début de la série, et ça s'est très vite... Voilà, ça a disparu, mais Doc Rivers, par exemple, on n'a jamais vu Ben Simmons en 5. Alors je sais, il protège pas la raquette, etc. Mais t'es dans un match 7 contre une équipe que tu devais dominer, faut aussi tenter des trucs.
Hein. Les moments où Onyeka Okongwu était sur le terrain, j'aurais testé Ben Simmons en 5. C'est un intérieur rookie. Offensivement, il n'est pas encore très poli. Il est meilleur défensivement qu'offensivement. Ça te fait une dizaine de minutes où tu peux tester Ben Simmons en 5. Impossible de voir Tybull et Howard ensemble, ou Simmons et Howard. C'est deux non-shooters en playoff. C'est pas possible. T'essayes déjà d'avoir qu'un seul non-shooter, et déjà des fois t'as des équipes qui se disent oh, ça va vraiment être compliqué si on a qu'un seul mec qui peut pas tirer. Et là tu te retrouves avec ça. C'est... Oui, il est pas aidé par non plus ce qu'il avait à disposition. L'absence de Danny Green, elle pénalise, parce que oui, même s'il met pas dedans, il est défendu comme s'il mettait dedans, ça reste Danny Green. Et ouais, comme tu le dis, ils ont terminé sans Maxi, je pense qu'ils perdent le 6, je vais le dire honnêtement. Et tu devrais pas dire ouais. Philadelphie perd le match 6 face à Atlanta sans Tyrese Maxi. Même avec Danny Green blessé, c'est pas possible. Ça veut dire que schématiquement ou dans des choix d'alignement, les choses n'ont pas été bien faites. Tu le dis sur les 5 premiers matchs. Je pense qu'en fait, il y a peut-être, et encore, je pense que la stat, elle est erronée par le match 1. Il les explose encore plus sur les 4, sur le match 2, 3, 4, 5. Match 1, le 5 d'Atlanta, je pense, est meilleur que le 5 de Philly. Et encore, c'est encore les choix de coach de Rivers qui font qu'il se passe de moins 8 à moins 22 dans le début du deuxième carton. Mais voilà, il a tenté peu, il a réussi peu. Et ouais, c'est super frustrant.
Et ce qui me dérange, moi, dans certaines des défaites des Sixers, c'est que t'as des matchs où t'es en double DD, t'as vraiment une avance considérable qui oscillait souvent entre 12 et 25 points. T'as perdu ces matchs-là, et c'est aussi la preuve d'autre chose, c'est peut-être qu'on a par moment surcoté la défense des Sixers. Et de manière générale, peut-être que dans ces playoffs, on a commencé à peut-être trop surcoter les défenses, parce qu'aujourd'hui on est face à des attaques qui sont de plus en plus élites. C'est même pas forcément le cas des Hawks, mais ils savent faire les bons ajustements et ils ont les joueurs qui, dans une NBA moderne, sont capables de te sanctionner. Et ce, peu importe la qualité de ta défense. Et aujourd'hui, on s'est aperçu que dès l'instant où les Sixers commençaient à moins mettre dedans, même leur défense, qui est pourtant censée être une des meilleures de la ligue, n'a pas su répondre à des moments où ils prenaient l'eau.
C'est ça, les Hawks. Alors, les fans des Hawks vont être un petit peu gênés parce qu'on parle beaucoup des Sixers, mais en fait, je trouve que moi, les Hawks, ils font leur série. C'est-à-dire qu'ils sont pas, ils ont quand même des moments. Globalement, sur la série, ils sont à 33% à 3 points, les Hawks. 33%. Enfin, ils ont le match 7 où Triang, enfin, à un moment, je me suis dit, Triang, mais pas un shoot. T'es à domicile contre les Hawks. Et il y a un moment, ils sont menés. Triang est à 2 sur 17. Ils sont menés. Alors, je sais, il a un impact par son playmaking, mais le franchise player adverse met pas un tir dans un match 7 et tu es derrière. Parce que la production offensive, on l'a dit, les gars, c'est anémique. C'est-à-dire que dans les périodes clutch, c'est soit du Embiid qui se retrouve à mi-distance, qui va peut-être partir sur du post-up ou sur un espèce de step-back. C'est du end-off pour un Seth Curry. C'est du Tobias Harris qui a disparu au niveau des flotteurs, etc. en fin de série. C'est très pauvre, en fait. Enfin, c'est même indigne d'une équipe avec de telles ambitions, ce qu'on a vu offensivement.
Complètement.
Ouais, clairement, clairement. Le manque de diversité et le manque de...
Après, il faut aussi mettre en avant le côté deep, enfin vraiment profond aussi des options que peut proposer Atlanta. Et le pire, c'est qu'ils le font avec des joueurs blessés, notamment aux ailes, qui auraient pu apporter des minutes, que ce soit Reddish ou Hunter, notamment Hunter, parce que lui, il aurait pu même faire le travail des deux côtés du terrain. Mais
Bogdanovic est blessé sur la fin de série. Hein.
C'est ça.
Ouais, il est.
Le deuxième meilleur joueur des Hawks, c'est Bogdanovic hein, sur les playoffs. Il est blessé. Sur la fin de match, il joue 20 minutes, je crois, hier. Et je crois qu'il ne met pas un panier dans le match 5 ou le match 6. C'est incroyable. C'est statistiquement pas explicable ce qui s'est passé en réalité. Donc, il faut essayer de trouver ailleurs ce qui s'est passé. Ou alors, on invoque le facteur chance, ce qui peut aussi être mis en avant. Mais au bout d'un moment, tu perds 3 matchs chez toi sur 4. Ils ont perdu 3 fois chez eux.
Il y a le facteur chance, mais t'as aussi le facteur choke. Tu vois, je pense que ça va de pair. C'est une carte que tu peux sortir comme ça, un peu à l'emporte-pièce. Mais je pense que quand c'est répété successivement plusieurs fois dans la série, c'est que t'as aussi un problème mental, psychologique. Et je pense que petit à petit aussi, certains joueurs ont commencé à se faire de moins en moins confiance et ça s'est ressenti.
Bon, on va ouvrir le dossier Ben Simmons, les gars. Juste un petit élément statistique, les stats clutch, en gros, moins de 5 points ou moins d'écart, 5 minutes à jouer ou moins. Il y a eu 5 matchs qui ont été considérés comme joués dans le clutch, ils en perdent 4 sur 5. Et les stats au shoot, elles sont dramatiques. Embiid est à 3 sur 12, Tobias Harris est à 3 sur 7, Seth Curry à 1 sur 4. Ils mettent un tir à 3 points dans les moments dits clutch de la série. C'est une catastrophe quand en face, t'as Triangle qui met des bombinettes. Tu parlais de la profondeur des Hawks, c'est surtout que les Hawks, en fait, ils ont des mecs qui savent mettre des shoots. C'est bête, ouais. Mais à un moment, en playoff, ça commence à compter, tu vois. On ouvre le dossier Ben Simmons, qui a là... on en parlait un peu en off, ça devient pratiquement triste, parce que dès la fin de la série, même son coach, Doc Rivers, qui dit en conférence de presse qu'il est pas sûr que ça soit le meneur d'une équipe championne... Joel Embiid qui fait des attaques à peine cachées envers lui, quand on lui demande est-ce qu'il faut repartir avec la même équipe, qui dit qu'il sait pas vraiment. Qu'est-ce qu'on fait, Ilias? Parce qu'on va te laisser la parole en premier, parce que nous on est un peu, on faisait partie du fan club Ben Simmons, Alan et moi, et forcément là on est attristé.
Vous voulez vraiment que j'entame? Ben Simmons, 34% au lancer franc sur la série, sur les playoffs. 3 tirs tentés, certes à 100%, sur les 7 quatrièmes cartons de la série face aux Hawks. Pas le moindre tir dans les quatrièmes cartons des matchs 4, 5, 6 et 7. Numéro 1 de draft, multiple All-Star, All Defensive Team, salaire max. Enfin, et on peut encore énumérer. Donc je pense qu'on est arrivé à la fin de quelque chose et que lui a besoin aussi de voir autre chose, d'être peut-être dans un environnement un peu moins exposé et moins exigeant, un peu à l'image de ce que Lonzo Ball a pu faire loin de Los Angeles, travailler sur plusieurs aspects de son jeu et notamment celui sur lequel Simmons galère aujourd'hui, c'est-à-dire le shoot. Le problème, c'est que Simmons, contrairement à Lonzo Ball, il part de beaucoup plus loin. Lonzo, c'était une question de mécanique qu'il a su corriger, qu'il a su travailler. Mais j'ai peur aussi, pour le joueur de manière individuelle, j'ai peur en fait pour son mental. Et cette action de fin de match à 89-86 pour Atlanta, où il s'ouvre en fait la voie du cercle après avoir enrôlé Gallinari pour finalement passer la balle à Tybull, alors qu'il lui suffit de dunker, ça résume tout pour moi. C'est vraiment symptomatique et symbolique d'un joueur dont la confiance est au plus bas et qui doute et qui réfléchit trop en fait. Et aujourd'hui, sincèrement, je sais pas ce que les Sixers vont pouvoir en faire. En tout cas, je pense qu'à travers les déclarations et à travers ce que l'on a vu, c'est acté. Ils vont tout faire en tout cas pour essayer de l'échanger, et il faut qu'ils le fassent tout simplement parce que tu peux plus prendre le risque de voir sa valeur chuter plus qu'elle ne l'a été jusque-là. Il était déjà en fait dans des rumeurs de transfert l'année dernière, notamment pour James Harden, et il y a des équipes qui seront forcément intéressées à l'idée de le récupérer, mais contre quoi ? Aujourd'hui, on parle beaucoup par exemple d'un éventuel échange concernant CJ McCollum. Mais c'est ça aujourd'hui la valeur de Ben Simmons. First pick, c'est CJ McCollum, pour qui j'ai le plus grand respect. Tu vois, 24 ans. Et si c'est à ce point-là qu'est tombé sa valeur, Daryl Morey va vraiment devoir se bouger parce que la contrepartie actuelle d'un Ben Simmons, je sais même pas ce qu'elle est, et du coup je vous renvoie la balle, quoi.
La stat sur Ben Simmons, juste une aparté. Alors, on parle des quatrièmes cartons, il n'a pas shooté. Moi, je trouve ça encore plus marquant quand tu sors les minutes. Ça fait 56 minutes de temps de jeu. 3 shoots en 56 minutes. Pour moi, c'est encore plus fort que la stat des quatrièmes cartons. 56 minutes. Titre de comparaison, Embiid, il en prend 41 sur le même, sur le même, sur le même temps. Lui, c'est en 59. Vous comprenez, c'est, Alan, qu'est-ce qu'on fait avec notre, notre Benjamin, pas moi, hein, mais Simmons. Et,
j'ai revu un truc sur Twitter. C'est un mec qui a remis des clips des premiers matchs de Summer League de Ben Simmons où il prend du pull-up à mi-distance. J'avais oublié qu'il pouvait faire ça en fait. Pourquoi ? J'avais oublié parce que si Ben Simmons pull-up à mi-distance, déjà ça change tout. Et ça, ça change complètement tout. Alors c'est la mécanique est ce qu'elle est. Il doit y avoir, il a mis dans le clip le gars que des réussites, il doit y avoir aussi des manqués. Mais c'était ses premiers matchs de Summer League donc où tu le vois, bah pull-up à mi-distance parce que la défense est à 2 mètres de lui et donc il dit bah attends, c'est bon, je te mets à 2 mètres, je peux quand même te mettre un tir à 5 mètres. Ça en fait, il ne le fait plus. Et c'est même pas une idée de changer son tir, améliorer son tir, c'est déjà prendre des tirs.
La mécanique est même pas mauvaise. Hein.
Bah, elle est pas exceptionnelle, tu vois, mais ouais. Il les prend pas en fait. Et puis, il les prend pas en catch and shoot. Donc off-ball, il est complètement inutile, sauf quand il peut couper, faire des coupes. On ne l'a pas vu aussi, en tant sans Embiid sur le terrain, en tant que poseur d'écran. Là aussi, Rivers, encore une fois. Parce que si Ben Simmons te pose l'écran, que tu lui donnes la balle pour courir vers le cercle, franchement, je pense que ça peut être pas mal. Il y a pas mal de bonnes choses qui peuvent arriver. Tu mets Curry, Green ou Korkmaz dans des coins, ça peut être bien. On n'a pas vu ça. Et puis, alors, moi, défensivement, je trouve qu'il est incroyable. Enfin, quand il veut vraiment s'y mettre en termes de polyvalence, il est incroyable, mais malheureusement, aussi incroyable qu'il est défensivement, il reste un joueur négatif sur une fin de match de playoff. Voilà, ça reste incroyable, mais c'est incroyable à dire pour un joueur drafté premier. Mais dans ce contexte-là de Philly, c'est le cas malheureusement. Donc, Ilias disait, tu me demandais qu'est-ce qu'on fait avec Ben Simmons. Déjà, est-ce que Morey ou est-ce que Philly va se dire, je préfère avoir par exemple 3 joueurs à 12 millions, peut-être un meneur. Deux ailiers qui peuvent être 3&D plutôt que Ben Simmons. Alors ça se trouve les gens verront un trade et ils se diront mais c'est pas possible de lâcher tout ça, de lâcher juste ça. Mais est-ce que si le but de Philly c'est de gagner le titre en 2022, bah c'est peut-être ce qu'il faut à cette équipe, mais ça reste super complexe quoi.
Surtout que excuse-moi Ben, mais la fenêtre de présence et de domination de Joel Embiid est encore en train de se fermer un peu plus et on l'a vu. Là, en fait, il termine la série, mais concrètement, on est en saison régulière où Philly mène 2-0, il est évident qu'il se repose un match. C'est-à-dire que là, vraiment, on est peut-être, on le sait pas, on sait que Joel, il est vraiment sujet à blessure et à pépins physiques. Concrètement, si tu n'agis pas maintenant, c'est que l'idée, c'est de tout casser, en fait, dans 2 ans et de redémarrer un nouveau process.
Tu le dis, ça se referme, et on le dit, les trades en ce moment NBA pour un joueur de ce calibre-là, c'est du spéculatif. Philippe peut pas avoir de spéculatif, c'est là où ça va être un vrai problème pour eux, c'est que Embiid a une stature, c'est un mec dans notre DH20 qui est très haut, tu ne peux pas, il va pas vouloir avoir des choix de draft et des prospects, il va vouloir avoir des bons joueurs, et ça va être très difficile pour Philly d'avoir ces bons joueurs-là, parce que la valeur de Ben Simmons, je l'ai dit sur Twitter, personnellement, Simmons, pour moi, c'est un cas d'école. T'es sur Twitter, tu balances ton tweet, ah, mon équipe devrait tenter Simmons, c'est bien. Par contre, tu te mets à la place du GM 2 minutes. Est-ce que vous voulez lier votre destin à Simmons? C'est une toute autre équation. Je vous rejoins parfaitement. Le niveau d'agression, ou en tout cas le manque d'agression de Ben Simmons, c'est dramatique. C'est-à-dire que on critique souvent un Giannis Antetokounmpo. Moi, j'ai toujours une qualité à lui donner, au moins Giannis, il est agressif. Genre, alors peut-être, il va rentrer dans les bras des gars, il va faire des espèces de vieux shoots, ok, mais au moins, il va toujours tenter.
Il va lutter, exactement.
C'est ça. Simmons, il s'efface, c'est incroyable. Et puis le shoot, je vous rejoins aussi, enfin, les stats passent tout le temps. Avant l'All-Star Break, cette année au lancer, il est à plus de 60, il finit à 32. On peut pas me dire que c'est pas psychologique. Alors, on n'aime pas parler en ces termes-là, mais là, ça paraît plus qu'évident. Donc oui, il faut changer de... faut changer d'endroit, mais ça risque d'être compliqué.
Et Ben, autre chose, tu vois, Alan parlait de Ben Simmons contre potentiellement 2 ou 3 joueurs qui te permettraient, par exemple, de gagner en complémentarité. Mais si, par exemple, Morey voudrait faire un deal dont il a le secret, c'est-à-dire vraiment un deal star pour star. Mais star pour star, aujourd'hui, je n'échange pas un joueur avec, enfin, ma star contre un joueur avec les qualités de Simmons. Tout simplement parce que, elles sont de moins en moins indispensables en playoff et parce que je peux les trouver pour moins cher en les répartissant sur un ou deux joueurs qui me prendront pas 140 millions sur les 4 prochaines années.
Totalement. Même la théorie souvent avancée même par nous, hein. Ah mais Simmons dans un autre environnement avec 4 shooters autour de lui, 4 shooters autour de lui, c'est la même, hein. S'il met pas un shoot, tu le hack en fin de match et il sort.
Ben, enfin, aujourd'hui, et c'est de sa faute, parce que j'ai fait tomber mon café sur mon canapé par sa faute, j'ai entendu Chris Broussard dire que Ben Simmons, il le verrait bien dans un contexte à la LeBron ou à la Giannis à Milwaukee. Mais, enfin, à moins qu'on entoure Simmons d'élite shooter à la Klay Thompson ou à la Bradley Beal ou je ne sais qui, une équipe menée par Simmons, ça ne va nulle part, quand bien même les shooters autour sont incroyables. Giannis, il shoot mal, mais contrairement à Simmons, il t'assure entre 25 et 40 points en playoff. Bref, hein, moi j'ai peur. En plus, Simmons, il a besoin de transition pour donner sa plénitude en attaque. Sur demi-terrain, il devient inutile. Et concrètement, les transitions, c'est pas ce que tu retrouves le plus en playoff. Donc au bout d'un moment, quoi qu'il arrive, t'es confronté à un mur.
Ni à Philly. En plus, voilà, mais c'est normal, tout le monde lui tombe dessus. Le contexte reste pas le meilleur pour lui, faut le dire aussi.
Bien sûr.
Reste pas le meilleur pour lui. Mais quand même, plus d'agressivité, plus de... Voilà, je crois peut-être un petit peu plus à la théorie ailleurs. Mais d'ailleurs, il faudra un protecteur de cercle qui tire à 3 points. Le poste le plus dur à trouver de toute la NBA, c'est-à-dire qu'il y en a 4. Ouais. C'est-à-dire 4 ou 5, c'est Turner, Brook Lopez et d'autres. Donc c'est super complexe. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est voilà, c'est comme je te dis, c'est, je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que c'est possible aujourd'hui de monter un deal pour Philly, dans l'optique de Philly, de gagner le titre en 2022-2023, où tu récupères des gars à la Jake Roder, des gars à la ce type de joueur-là, deux ou trois de ces gars-là contre Ben Simmons. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'une équipe est prête à le faire? Je sais pas.
Covington, McCollum.
Tu vois, même McCollum va falloir se lever tôt. Et moi, je suis GM des Blazers, je le fais jamais, le McCollum pour.
Mets-toi surtout à la place d'un mec qui peut potentiellement aussi te menacer en te réclamant son trade. Parce que c'est jamais avec Ben Simmons que tu vas convaincre Lillard d'aller au bout.
C'est ça. Enfin, bref, on verra, mais on va clore ce chapitre-là. Alors, les fans des Hawks, rassurez-vous, on aura la finale de conf pour parler de vous, mais là, la débâcle, le cataclysme Philly était trop important. On a parlé beaucoup de Giannis, la transition est toute faite. Série de très très haut niveau entre les Bucks et les Nets, remportée par les Bucks après un match 7. Ah, ça m'a embêté, je l'ai pas vu en direct. Je me réveille, match 7 classique. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé? 115 à 111, malgré un Kevin Durant fantastique. Est-ce que les Bucks sont devenus différents, les gars? Est-ce que les Bucks sont différents? Où ce sont les mêmes Bucks et les Nets à travers les blessures, mais je pense pas qu'il y ait que les blessures. On parlera peut-être de certains points de coaching, de Joe Harris qui met pas dedans, etc. Alan, on met où le curseur? Est-ce que les blessures, les Bucks sont différents? Qu'est-ce qui se passe?
Les Bucks, non. Non, parce que les Bucks, contre juste Kevin Durant, James Harden sans zen ou sans, je sais pas comment ça s'appelle cette partie du corps, sans ischio, sans zen, sans Kyrie, ils sont à ça du pied de Kevin Durant.
L'autre il fait du 56.
De se prendre le buzzer beater du siècle. Parce que s'il le met à 3, mais là c'est complètement n'importe quoi. Ce tir c'est n'importe quoi. Sachant qu'il est pas sorti une minute du match. Le gars, il est cramé complet.
9 sur 10 sur l'échelle de la difficulté.
Ce que j'ai par contre aimé, et juste si je peux aller dans le sens du changement Milwaukee, déjà mentalement Milwaukee après ce qu'ils ont pris dans le match 5, même s'ils sont meilleurs et plus profonds sur les deux derniers matchs, ça reste fort de gagner les deux matchs. Voilà, il faut le dire, ça reste fort de gagner les deux matchs. Giannis, je suis pas le plus grand défenseur de Giannis en playoff. Il y a mis du cœur à l'ouvrage, il y a été, offensivement, j'ai trouvé ça vraiment bien. Middleton fait un très très bon match 6 de mémoire. Jrue Holiday, même si c'est pas exceptionnel sur demi-terrain, ça reste un troisième bon joueur d'une équipe qui va loin. Et puis Budenholzer, j'aime bien lui cracher dessus. Il y a de quoi sur la série. Et voilà, il a fini la série avec 6 gars. Il n'y a que 6 gars qui ont joué. Mmh. Le 5 et Connaughton. C'est tout. Brinford vous a joué des bribes un peu. On n'a pas eu de Portis, on n'a pas eu de Jeff Teague, on n'a pas eu de Thanasis, on n'a pas eu de tout
si,
ça.
Si.
Et voilà.
T'as eu du Thanasis par moment.
Ouais, mais pas sur les deux derniers. Parce que des fois, on a eu
mais
du
Thanasis.
Mais
je pense qu'il était là pour nous redonner un peu de bonne humeur. Parce que tu sais, les matchs étaient stressants.
Ouais, ouais.
Donc il fallait une partie bloopers. Donc il envoyait Thanasis pour nous faire rigoler un peu.
Quand du Thanasis qui rentre juste pour la position défensive de fin de premier quart-temps, il l'a fait 2-3 fois. Il dit c'est bon, il faut arrêter. Mais voilà, on n'a pas eu de Elijah Bryant qui a pris des minutes dans certains matchs au milieu de la série. Sur ça, Budenholzer mérite un petit peu de respect, là où le début de la série, c'était cataclysmique ce qu'il avait fait, ce qu'il avait proposé.
Mais à ce moment-là, on peut aussi retourner la question et se demander pourquoi il s'est pas au moins appuyé sur certains de ses joueurs. Moi, je suis pas fan des Bryn Forbes et des Bobby Portis, mais lui a estimé qu'il ne pouvait rien apporter. Mais en même temps, on n'a pas vu d'échantillon suffisant pour peut-être se dire que s'il avait utilisé ses options, elles auraient pu apporter quelque chose par petites touches à certains moments dans les matchs. Parce qu'il y a des matchs où, et même dans le set notamment, où Giannis finit rincé. Et moi, en fait, j'ai quand même été dérangé. Voilà, enfin... Les Bucks sont en finale de conférence, mais j'ai quand même été dérangé par leur niveau de jeu général face à des Nets avec un Harden qui est limite pénalisant, c'est-à-dire qu'il apporte rien. Normalement, tu dois provoquer les switches et les situations pour pouvoir l'agresser et t'assurer les deux points. J'ai trouvé qu'il manquait de diversité et d'imagination face à des Nets qui sont pas réputés pour leur défense, même s'ils ont été surprenants sur pas mal de séquences. Enfin, c'est peut-être un peu galvaudé de dire ça, mais j'ai trouvé un côté combatif chez ces Nets que je leur soupçonnais même pas. Enfin, voir par exemple Griffin maintenir Giannis au poste bas, voir par exemple des joueurs comme Bruce Brown arracher 3-4 bons offensifs sur la tête de Brook Lopez dans le match 7. Il y a des éléments comme ça que je vais évidemment créditer les Nets, mais qui en même temps me font penser que des fois Milwaukee a abusé et aurait pu largement terminer cette série, parce que c'est peut-être réducteur de le dire, mais c'est une réalité. Ils ne doivent leur salut dans cette série et leur qualification qu'à la blessure de Kyrie Irving. Je vous rappelle que avant qu'il se blesse, c'est James Harden ne joue pas, donc on ne précipite pas son retour, et à lui seul et avec Kevin Durant, ils ont annihilé totalement les Bucks sur les deux premiers matchs. Donc c'est ce qui me fait dire que Milwaukee n'a peut-être pas forcément progressé, et qu'en fait, face à uniquement Kevin Durant en face, avec un Joe Harris, comme tu le disais Ben, qui met rien, il leur a fallu 7 matchs et une overtime. Moi, personnellement, et le pire, c'est que j'en fais mon favori maintenant pour le titre, mais tout simplement parce que la voie, elle est ultra dégagée. Tu vas te taper soit des Clippers privés de Kawhi, soit... des bébés en la personne des Suns, et là actuellement tu vas forcément, à mon avis, je pense que logiquement tu devrais défoncer les Hawks, même si maintenant je commence à avoir des doutes.
Ouais, niveau prono, après le podcast dernier, on arrête perso, on fait plus rien. Non, je suis, les Bucks sont différents. Après moi je vous avoue que c'est bizarre, mais Giannis il est trop remonté dans mon estime sur la dernière semaine. Un truc de ouf. Parce que j'ai vu, je pense que c'est en comparaison avec Ben Simmons, en fait. Hein. C'est peut-être le miroir qui fait ça, où il a été extrêmement agressif. Alors, je suis d'accord sur les Bucks font pas une série offensive incroyable. C'est la pire équipe à 3 points sur la série, alors qu'ils en prennent un vrai volume. Ils sont sauvés. Middleton fait des matchs incroyables, c'est vrai, où il met des shoots très très compliqués, ce qui me fait penser, série d'après, qui défend Middleton? J'ai un peu peur pour les Hawks à ce niveau-là. Après, défensivement, ils font une série vraiment incroyable. Ils ont laissé que 7 tirs à 3 points dans le corner à Joe Harris. Et la méforme de Joe Harris, elle s'explique parce que je pense que stratégiquement, ce qu'a fait Budenholzer, c'est très fort, c'est qu'en fait, il s'est dit, Kevin Durant va en mettre 50. Enfin, probablement. C'est pour ça que je suis pas d'accord. Il y avait un gros débat dans la rédac. Je suis pas d'accord avec Giannis sur KD, parce que pour moi, ça change pas l'équation.
Même pas par séquence.
Je m'occupe. Même pas par séquence. J'ai peur de trois choses. J'ai peur d'abord que, en fait, rien nous assure que c'est un gain volontaire. Alors, il y a des stats de saison régulière, mais on n'a pas l'assurance que ça va marcher. Deuxième chose, c'est dérégler complètement le système défensif qui est probablement un des meilleurs de la NBA, si ce n'est le meilleur. Si tu retires, enfin, il y a débat avec Utah, mais on est en playoff, donc bref. troisième chose, je me demande si Giannis a quand même énormément d'importance sur les aides, etc. Est-ce que c'est pas, t'y perds pas. Enfin, bref. Donc, je pense qu'il faut saluer Budenholzer. Et alors oui, on peut pas occulter que avec Kyrie Irving, je pense que cette série est terminée et que James Harden n'a rien à faire sur le terrain dans la plupart des matchs qu'il joue. Que tu vois que le mec est diminué. Mais après, faut souligner la défense des Bucks. Moi, je trouve que vraiment leur défense. Alors, on va me dire, oui, ils s'en prennent 50 de KD. Ouais, mais c'est le meilleur joueur du monde en ce moment. Donc,
J'ai trop de respect et d'amour pour PJ Tucker. Et je comprends maintenant, je pensais en fait son ajout en cours de saison un petit peu surcoté, là aujourd'hui, clairement après cette série, tu peux strictement rien dire par rapport à son apport. Mais et le pire, c'est que c'est lui qui en majorité défendait sur KD. Il a beau s'en prendre des 48, des 49, mais enfin l'abattage du mec, enfin ça inspire quand même le respect. Et après effectivement le seul truc peut-être qu'on pourrait lui reprocher c'est de pas avoir mis plus dedans dans les coins voilà ça j'ai l'impression c'est que ça concernait tous les Bucks.
Quelque chose à dire sur une série, je tiens à le rappeler, je trouve vraiment de haut niveau surtout sur les derniers matchs, c'est la meilleure série de cette année, je pense, en termes de niveau de jeu. Alors, on n'a pas encore vu les finales de conf et la finale NBA, hein, mais c'est très, très, très fort.
Je pense qu'il y a un mec aussi dont la perception va changer grâce à cette série, et c'est KD. Parce que KD, j'ai l'impression qu'il a gagné pas mal de respect, KD, sur la dernière semaine. Parce qu'en réalité, dans les yeux du microcosme des gens qui suivent pas mal la NBA, ou même un peu plus loin, KD, c'était un peu le gars qui s'était, je cite entre guillemets, faciliter la vie depuis quelques années. Là, sans Kyrie, avec un Harden diminué, il réussit à amener les Bucks en 7, il en met 5 ans, il fait la plus belle performance que j'ai vue en playoff depuis celle de LeBron match 1 2018, qui était vraiment incroyable dans le match 5. Le match 6, tout le monde dit qu'il est moins, ouais, en fait, il fait juste 15 sur 30 au tir, c'est juste qu'il n'arrive pas à aller sur la ligne, mais il met 15 shoots, en fait, le mec.
Et puis, il joue 46 minutes.
C'est ça, c'est n'importe quoi.
Alors, qui revient du temps de d'Achille,
je suis vraiment d'accord avec ça, parce que là, les Nets sont un peu plus, les Nets auraient passé cette série avec Kyrie Irving, j'en suis persuadé, avec James Harden et Kyrie Irving à 100%, je pense que cette équipe est championne NBA, hein, je pense qu'on peut le dire. Mais il y a une faillite, comme tu l'as dit, Ben, d'à côté. Joe Harris, très bien défendu par le système Budenholzer, mais qui quand même doit mettre plus dedans. Même s'il est bien défendu, il doit quand même mettre plus.
Il est à 32%, voilà, je crois. C'est pas, c'est même ça. Si t'es bien.
Alors qu'il a dû rater 3 shoots en saison régulière, quoi.
C'est ça.
Il était incroyablement chaud. Ouais.
Et un contre Boston. Ouais.
L'absence de Dinwiddie, qui reste quand même quelque chose si tu perds Kyrie Harden, ce mec-là aurait pu aider. Et je viens de voir une info, ça m'intéresse énormément. James Harden va faire les JO. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Incroyable.
Il vient de dire oui. Donc en termes de blessures, en termes de tout ça, ça m'intéresse pas mal. Pour la
Alors je pense que le staff des Nets, il ne doit pas être fan de ses choix.
Ouais, je suis pas.
Entre KD et Harden, c'est les mecs.
Tokyo est une très belle ville. Hein. Ils ne pourront pas la voir.
Mais ça m'intéresse sur le. Qu'est-ce qui va se passer prochainement sur les Nets? Parce que je pense qu'il va y avoir quelques changements. Dans la côté des trois.
Dinwiddie ne va pas prolonger, je pense.
Non, mais il pourrait se dire, si on est à 100%, personne ne peut nous battre, qu'importe ce qui est à côté. Mais tout le monde a des blessés, tout le monde a des joueurs qui manquent des matchs. Donc, ce serait peut-être intéressant pour eux de voir une ou deux choses pour améliorer l'effectif, chose qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'ils ont DeAndre Jordan à plus de 10 millions par an. Voilà.
Qui joue pas une minute dans un...
Ce qui est quand même assez problématique.
Je vais quand même revenir vite fait sur un point qu'Alan a souligné, qu'on a un petit peu balayé, et c'est vrai que ça mérite quand même qu'on s'y penche. J'avais dit dans un podcast il y a quelques mois, je crois que c'était notre retour sur le match 7 des finales NBA 2016, qui avait sacré les Cavs. J'avais dit en fait lors de ce podcast que Kevin Durant était passé à côté de son histoire, lors de cette série perdue face aux Warriors, alors qu'ils menaient 3-1, et en faisant le choix de rejoindre Golden State. Pourquoi ? Parce que, en fait, KD, il a le potentiel pour intégrer peut-être plus que le top 10 NBA. De l'histoire, je parle. Et ce qu'il y a de bien, en fait, dans cette série, c'est que il a un peu réhabilité son image. Parce qu'on voit, et justement, ça corrobore avec ce que je dis, c'est qu'on voit ce que le mec est capable de faire dans un contexte où il est un petit peu moins entouré de stars. Ce mec, il a la capacité, en fait, de t'emmener au titre. Mais c'est juste dommage, qu'il ne se soit pas fait plus confiance, en fait. Et là, tu le vois, c'est dans son regard, c'est dans sa manière de jouer, c'est dans les initiatives et les responsabilités qu'il a pris. Il a dit, c'est moi qui vais vous mener au bout, c'est moi qui vais vous emmener en finale de conférence. Et je trouve que c'est dommage qu'au-delà de 30 ans, on n'ait pas plus vu cette version de KD pendant sa vingtaine, en fait.
Après, il y a toujours ce paradoxe incroyable, c'est que individuellement, on aime voir les stars esseler parce que ça nous donne, je sais pas, du... Alors, je compare pas le niveau, hein, mais ça nous donne du Luka qui fait du 45-15, qui fait des délires. Mais de l'autre, collectivement, moi, je préfère toujours une équipe où il y a une finale de conf.
Évidemment.
Warriors-Rockets où ça joue à un niveau inhumain. C'est aussi... Mais je peux comprendre parfaitement le raisonnement. Après, je veux pas nous mettre au-dessus de la mêlée, mais... Même s'il était bien entouré, Kevin Durant, même version Warriors, il fait des trucs. C'est un manque de respect inimaginable d'imaginer que ce mec-là, c'est pas un extraterrestre. Je veux dire, regardez nos DH20, c'est un mec qu'on met deuxième alors qu'il revient du tendon d'Achille. C'est
oui, mais regarde, Ben, le truc, c'est que lui, il pensait justement, parce qu'on Alan parlait de respect et du fait de gagner le respect, en fait, du microcosme et justement de la communauté basket. Et justement, c'est ce que Steve Kerr avait souligné après le fait même que les Warriors avaient gagné le titre, c'est que Kevin Durant se demandait encore pourquoi, malgré le fait d'avoir été champion NBA, il n'avait pas gagné le respect des gens. Parce que c'est aussi ça, en fait, le revers de la médaille. Tu peux pas, en fait... Regarde, LeBron se fait sweeper dans cette finale, dans le match que Alan mentionne. Il met 51 points, il est tout seul, personne ne peut rien faire contre lui. KD fait un match pas terrible, il est même, je dirais même, dégueu, mais il gagne le match. LeBron, à côté de ça, il en plante 51, mais voilà, il y a cette notion de respect, c'est vrai qu'elle est très dure à coïncider avec des victoires, en fait.
J'ai l'impression qu'on aime trop les perdants magnifiques, en fait. Enfin, bref, il y a...
C'est notre coup de poulie d'or.
Et pour la finale de conf, du coup, les gars, parce que le temps passe, j'ai envie... Alors, on est obligé de se risquer à faire des pronostics alors qu'on n'arrive pas à en faire un seul depuis le début de des playoffs, mais j'ai du mal à imaginer les Bucks pas passé. De toute façon, les Bucks, là, ils vont avoir un sentiment assez clair, c'est que c'est leur chance. Tu n'auras jamais tableau aussi dégagé, ça va jamais se passer comme ça. C'est d'ailleurs pour les quatre équipes. Hein. Je mets même les Hawks, qui sont entre guillemets jeunes, ils doivent se dire que peut-être Trae Young et ces Hawks-là doivent se dire qu'ils verront plus jamais ça. Mais les Bucks paraissent, Alan, pour moi, ils sont ultra favoris de la finale de conf. Là.
Oui, les Bucks sont... Oui, est-ce que les Bucks sont trois des quatre meilleurs joueurs de la série? Potentiellement, faudra.
Ah, ils ont les trois, non? je rigole.
le manque de respect. Mais les Hawks sont plus profonds, mais on sait que ça a moins d'importance. Les Hawks, Bogdanovic, moi, sa blessure, elle me fait un petit peu peur. Je sais pas dans quel état il va être. Hunter, pareil.
Là, Hunter, je te coupe, mais là, Hunter, c'est une catastrophe, parce que tu l'aurais mis sur Middleton, mais là, je l'ai déjà dit, mais tu mets qui sur Middleton?
Bah, si tu fais ton 5 à, comme il a terminé la série, avec trois guards, Trae Young, Werther, Bogda, bah, c'est soit Bogda, soit Werther qui va se retrouver sur Middleton, c'est très problématique. Et mettre Solo Hill ou Tony Snell dans un 5 de départ de finale de conférence, moi, perso, ça me dérange. Donc c'est problématique schématiquement.
Et Jrue Holiday, c'est peut-être, on va dire, le joueur idéal sur le poste de meneur pour pouvoir défendre Trae Young. Ouais.
Complètement. Trae Young qui va aussi au bout d'un moment être fatigué, je pense. Bon, tout le monde est un peu fatigué, là, j'ai l'impression, hein, de tous les côtés.
Mais, il y a un truc à l'épaule, en plus. Enfin, ouais.
Je pense que Milwaukee devrait s'en sortir, mais c'est déjà une énorme victoire pour les Hawks d'avoir passé deux tours et d'être là où ils sont. C'est que du bonus, maintenant. Hein. Là où, café de comptoir, on continue, les Hawks ont rien à perdre, les Bucks, ils ont tout à perdre. Là, franchement, si tu t'es Milwaukee, que tu perds cette série, ça va être très problématique, je pense.
Tu délocalises la franchise sur une autre planète.
Il est à ton avis sur les... Je pense qu'on est tous d'accord, les Bucks partent favoris, mais en fait, pour moi, ils partent favoris d'abord sur le match-up, il est totalement défavorable, et je pense qu'ils vont aussi partir favoris parce que la façon dont ont gagné les Hawks. Les Hawks auraient gagné avec des 45% à 3 points. Là, je me serais dit, ok, les Hawks shootent mal, mais ils se défendent bizarrement assez bien. Ça, on l'a pas dit, mais les Hawks ont plutôt bien défendu. Là où les Bucks ont fait un petit peu la même chose, mais en face, parce que les Hawks ont eu parfois quelques trous d'air dans la série précédente, les trous d'air face à une équipe qui shoot comme les potentiellement comme les Bucks, tu peux perdre très vite. Et puis il y a pas mal de graphiques qui sont passés. Middleton à domicile, ils reprennent l'avantage du terrain, ce qui en théorie ils auraient jamais dû avoir à ce moment-là de la compétition. C'est un élément aussi.
Pareil qu'Alan, hein. Enfin voilà, je vais m'y prêter de mon petit ticket de loto, mais enfin allez, 5 matchs et je pense que c'est réglé. Ils peuvent pas en fait passer à côté d'une telle occasion. D'ailleurs, c'est un petit peu le cas des quatre équipes. C'est peut-être voilà une situation qui pourrait ne plus se représenter. Même les Clippers, tu vois, on sait pas en fonction de la gravité de la blessure de Kawhi si c'est un croisé, est-ce qu'il revient l'année prochaine. Là, en fait, ces quatre équipes, elles sont face à leur destin et je pense que l'équipe qui aurait le plus à perdre ce titre, c'est clairement Milwaukee, c'est-à-dire que là, en plus, ça pourrait voilà couronner Giannis après deux titres de MVP et une montagne de doutes qui s'est empilée sur sa tête. Donc là, l'occasion, elle est vraiment trop belle et je pense pas en fait que Milwaukee pourrait passer à côté et surtout je vois pas en fait qui pourrait défendre en fait sérieusement et limiter les trois stars des, enfin les trois joueurs majeurs de Milwaukee.
Alors, deux questions avant qu'on parte à l'ouest, les gars. Premièrement, est-ce que ces Bucks sont vos favoris pour le titre global, c'est-à-dire en prenant le quatuor de tête?
Oui.
Non.
Ah, donc, je sais Alan, je sais ce que Alan va répondre. Donc, Ilias, qui sont, quelle équipe est selon toi le plus gros danger de ces Bucks?
Les Suns.
Ok, donc on va parler des Suns parce que Alan, on se connaît trop bien. Il met les Suns favoris. On bascule à l'ouest. Vous comprendrez qu'on va pas trop parler de la série entre Suns et Nuggets parce qu'on l'avait déjà entamé à 3-0 et voilà. Enfin, les Nuggets étaient complètement carbonisés. On parlera pour terminer l'émission un peu du Clippers Jazz, mais Alan, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi tu mets ces Suns favoris qui sont. Ils sont alléchants, ces Suns, hein, c'est vrai.
Alors, je dis, ça dépend. Il faut que Chris Paul sorte du protocole Covid sans dommages collatéraux, effets secondaires et compagnie. Voilà, sans Covid, quoi.
D'ailleurs, l'info donnée ce soir par Chris Haynes va dans ce sens-là.
Ouais, ouais, ça va mieux. Mmh. Il est en quarantaine à Los Angeles, je crois, et ça va mieux.
C'est pas mauvais pour une quarantaine.
Non, il y a pire, il y a pire.
C'est mieux qu'à New York, quoi. Wow, ouais.
Pourquoi j'ai les Suns? Parce que... Alors, c'est vrai qu'en termes schématiques, j'ai pas vraiment pensé à une éventuelle série Bucks-Suns, ce qu'il faudrait faire parce que Budenholzer est un tel calculateur défensif qu'il trouverait sûrement un moyen d'embêter les Suns sur le mid-range, quelque chose qui est clé dans le jeu des Suns. On l'a encore vu hier avec Devin Booker dans le match 1 contre les Clippers. Mais si Chris Paul revient, bah déjà, je pense que, franchement que pour battre les Bucks, et ça a été montré dans le début de série par Brooklyn, il te faut un niveau élite de guard play, c'est-à-dire donc des joueurs sur les bases arrières qui sont capables de passer, dribbler, shooter à haut volume, jouer du pick and roll. Il te faut aussi un intérieur capable de bouger Brook Lopez, potentiellement le faire sortir du match, chose qui n'était pas trop possible dans la série contre les Nets. Mais en réalité, Brook Lopez, pour moi, il fait l'action la plus importante de la série contre Brooklyn. C'est le bloc sur KD. Ce bloc, il est incroyable. Moi, je suis sur mon écran de portable. Je pense que KD va lay-up facilement, hein, ou alors qu'il va prendre la faute. Ce bloc est incroyable.
Tu te rappelles de son action en sortie de temps mort?
Ouais, non, mais... c'est affreux. Mais,
il se rattrape.
Donc, j'ai Bridges, Torrey Craig, Jay Crowder. Trois joueurs. Est-ce qu'on peut faire mieux que ces trois role players là pour envoyer sur Middleton Le limiter, ce n'est pas possible d'arrêter Middleton, de limiter Giannis, mais peut-être les embêter. Je trouve que cette construction d'équipe, elle est super bonne, quoi. Elle est super bonne. Le seul souci, c'est les minutes sans Ayton, parce qu'on l'a encore vu hier, Saric, pour moi, en playoff à haut niveau, c'est pas possible. Donc, je trouve cette équipe super bien construite, en fait, de partout.
Et Giannis, juste, je te coupe, je te laisse. T'as pas un peu peur qui...
Je mets Bridges. Trop fin, je pense, pour ouais, être... C'est trop fin. Est-ce qu'ils n'ont pas le défenseur parfait pour jouer Giannis? Ça, c'est clair, ils ne l'ont pas. Mais si tu bloques bien tout à côté, qu'en attaque, tu es assez efficient, tu pourrais t'en sortir, je pense.
C'est collectivement que tu le freineras, Giannis. Je pense pas que t'es un mec qui individuellement ça va se jouer sur les aides, mais après qui dit aide dit forcément le fait de laisser quelqu'un libre à l'opposé. Ouvert, donc ouais. Après faudra qu'il soit vraiment très très actif sur les rotations et les switches défensifs.
Je vous avoue, on a l'impression que ça va être la finale NBA, mais j'ai... Qui disait ça dans notre conversation? Mais c'est toi en fait, Ilias, qui disait ça hier, qu'en cas de finale Bucks Suns, j'ai encore du mal à vraiment me positionner sur qui est favori, etc. Parlons peut-être du coup du Clippers Suns. Est-ce que là on est arrivé au bout des Clippers et on va du coup remonter la machine à remonter dans le temps, on va remonter dedans et déjà comprendre comment ils sont passés. Parce que il y a 10 jours, on les donnait morts, ils avaient perdu. Ils perdaient 2-0 contre le Jazz. On apprend que Kawhi, pendant la série, a une petite blessure, a une alerte au genou. Autant dire que là, je ne misais rien du tout personnellement sur ces Clippers. Ils reviennent. Globalement, la stat est sortie. C'est la deuxième série la plus efficace en termes offensifs pour une équipe de l'histoire. La première étant les Nets contre Boston au premier tour. Et si on prend les 4 victoires, on est... Et si on prend les 4 victoires, on est à 133 d'offensive rating, c'est-à-dire un truc inhumain. Qu'est-ce qui s'est passé encore une fois, Ilias? Dès que je sais pas ce qui s'est passé, je viens vers toi. Qu'est-ce qui s'est passé?
Tu parles pour Utah? Moi, je pense que Tyronn Lue, il a tout simplement regardé la manière dont les Jazz se sont fait sortir les 4 années précédentes. C'est à chaque fois le même type d'équipe qui les attaque de la même manière. Ils arrivent tout simplement à annihiler Rudy, et dès l'instant où le Jazz commence à perdre en adresse, bah malheureusement, ils disparaissent. C'est clairement la symbolique de l'équipe qui vit et qui meurt par le shoot à 3 points. D'ailleurs, tu peux pas faire plus symbolique que le match 6. Ils mettent tout en première mi-temps, ils mettent plus rien en deuxième. Les Clippers mettent en place leur fer à cheval et c'est terminé. 13 paniers à 3 points dans les corners. Quatrième perf all time et voilà, et malheureusement un Rudy qui forcément a pas la mobilité pour sortir et s'écarter et aller défendre sur les extérieurs, et il a eu le malheur de le faire, voilà, peut-être à 2 ou 3 reprises, c'était immédiatement sanctionné par un drive. Donc c'est en fait le jeu de Utah vraiment te permet de maximiser ta saison régulière. On a vu, ils ont plané sur la saison, mais est-ce que au final c'est une surprise? Après, évidemment, la surprise réside dans le fait que la mauvaise surprise pour eux de sortir alors que Kawhi se fait peut-être les croiser et est absent pour le reste des...
Ibaka
n'est pas là. Et c'est finalement Reggie Jackson et Paul George qui te flinguent.
Terrence Mann. N'oublie pas Terrence Mann.
Terrence Mann qui, le temps d'un match s'est transformé en Kawhi Leonard. Incroyable, enfin... Je pense que on en parlait un petit peu en off. Ces playoffs vont très certainement pousser des équipes à devoir peut-être revoir leur copie et leur manière de jouer, parce qu'il y a des systèmes et des constructions d'équipes qui malheureusement ne sont plus viables aujourd'hui en playoffs.
Je vais aller à contre-pied pour Alan. Est-ce qu'il tombe pas à chaque fois contre plus fort qu'eux, en fait? Ouais. Là c'est l'année où ça se défend le moins. Mais historiquement, est-ce qu'ils ne tombent pas toujours contre plus fort qu'eux, en fait?
Ils tombent 2 fois contre Houston, si je me trompe.
Ouais.
Si je me trompe pas. 2 fois Houston, bon, là, pour moi, c'est normal de perdre. Denver, ils tombent contre eux. Je crois que Jamal Murray a mis quoi? 140 points en 3 matchs.
Alan, il mène 3-1. Ouais.
Oui, je sais qu'il mène 3-1, mais si en face, t'as un mec qui peut pull-up à 10 mètres et en mettre 50, 45 et 50 en 3 matchs de suite.
Alan, il mène 2-0 et Kawhi se blesse. Je te donne des éléments factuels, je te facilite la tâche.
Oui, je sais, je sais. Non, là, je suis d'accord avec Ben sur c'est le moins défendable cette année.
C'est incroyable.
Cette équipe, en fait, on l'avait dit, hein, elle n'était pas très profonde. Elle manquait de diversité offensive à certains moments. C'est-à-dire que, bah, à part du drive and kick de
Kick.
Mitchell, ou du pull-up de Mitchell, ou du catch and shoot de Ingles, O'Neal, Bogdanovic et compagnie.
Clarkson.
Et comment on appelle ça, des heat check, comme disaient les Américains, de Clarkson qui rentre. Et Clarkson, il met 21 points en première mi-temps du match 6. Hein.
C'est n'importe quoi.
Il fait n'importe quoi. Et ils arrivent quand même à le perdre parce que peut-être ce manque de diversité. Et puis non, je pense qu'il faut saluer Lou, en fait. Lou, les Clippers et les role players des Clippers. Reggie Jackson, Nick Batum, Terrence Mann, Marcus Morris, il a été bon. Par moments, il a été Marcus Morris, c'est-à-dire qu'il se prend pour Kawhi, mais Marcus Morris. Et puis voilà, Lou qui fait certains choix, qui sort des gars de la rotation, qui sort de mémoire, il sort Rondo, il sort Boogie. Ces gars ne jouent plus sur les derniers matchs. Alors oui, le truc qu'on peut dire à Lou, c'est oui, tu mets tout le temps trop de temps à s'adapter. Oui, mais il le fait. Et ça date pas que d'hier. C'est le même mec qui start Richard Jefferson sur les 3 derniers matchs de la finale 2016. Beaucoup de gens l'oublient, ça.
C'est
Mais.
difficile, je te coupe, c'est difficile quand même de sortir de tes habitudes, quand même, pour un coach, c'est toujours difficile.
Complètement. Complètement, c'est difficile de sortir des habitudes. Mais tu vois, là, c'est. Bravo à eux. Et puis, je dis pas que c'est comme KD, mais Paul George a peut-être regagné peut-être un petit peu de crédit. C'est aussi sur les derniers matchs. Paul George, dont les performances en playoffs étaient raillées depuis l'année dernière, depuis sa série contre Utah d'ailleurs, avec OKC, sa série, quelques séries qu'Indiana, bah là, sur les 2 derniers matchs, il a été incroyable.
Incroyable, incroyable.
Et ça reste pour moi, hein, peut-être avec Luka, LeBron, bien sûr, mais un des meilleurs drivers pour passeur sur drive de la ligue, ce qu'il a fait. Sur les 2 derniers matchs, c'était incroyable. Alors bien sûr, t'as besoin que Jackson, Mann, Morris, Batum mettent dedans. Mais les passes étaient super bonnes, franchement. Et non, bravo aux Clippers, je les donnais morts, complètement morts. Même à 2-0, à 2-0, c'était fini pour moi. À 2-2, blessure de Kawhi, match 5 à Utah le soir même, c'était plié. Je crois que c'est toi, Ben, qui avait peut-être dit, ah, peut-être ils gagneront le 5 sur une espèce d'euphorie, de. Non, c'est peut-être. Mais sur les 2 derniers matchs, ça ne le fera pas. Et finalement, non, ça reste impressionnant.
D'ailleurs, destin un petit peu croisé des équipes comme les Clippers et les Nets, deux équipes favorites, meurtries par les blessures, mais qui ont su vraiment se sortir les tripes. Et en fait, j'aurais pas soupçonné ça de ces équipes-là. On leur prêtait beaucoup de suffisance, chose qui pouvait être vraie par moment, mais ils ont montré en fait que ils étaient focus et que clairement, enfin, si elles avaient pu être au complet, elles allaient tranquillement s'affronter en finale.
Les takes sont lâchés.
Voilà.
pour
Fallait
revenir,
pour mon retour que j'en balance quelques-unes.
pour revenir, ouais, sur Paul George, Alan a dit le truc, un des meilleurs passeurs sur le drive parce qu'il a drivé. J'ai
Eh
l'impression
oui,
d'avoir retrouvé le
voilà.
Paul George début Indiana. Il
Un
drive, il
spot-up
fait
shooter.
mal à. C'est pas un spot-up shooter. Et malheureusement, sur la fin du match 1 contre les Suns, il est redevenu un peu ce shooter à prendre des shoots compliqués. Mais il drive, on le sait de toute façon. Alors ça, vous pouvez remonter au début du podcast Dunk Hebdo, la faiblesse de cette équipe du Jazz version Rudy Gobert, elle est simple, c'est dès qu'un arrière est capable de leur faire mal sur du pull-up et de la pénétration, c'est leur némésis. Et Terrence Mann, alors ça, c'est par contre le casting est un petit peu surprenant, mais c'est Terrence Mann qui a fait ce job-là. Par rapport à la construction de l'équipe, moi, je vous avoue, les gars, que je trouve que le problème, il est plus offensif que défensif.
Mais
Problème
bien sûr.
offensif parce que Rudy Gobert, en fait, on lui tombe beaucoup sur sa défense. Enfin, au bout d'un moment, il aide le mec, l'autre balance, il met à 3 points, il met tout à 3 points. Bon bah, ça va arriver. Je pense que peut-être prendre plus avantage de le 5 des. Parfois, on a du Kennard, on a du Beverley sur lui. Il faut prendre avantage de ça. Alors, c'est pas forcément en mettant des gros post-up comme des années 90, hein, mais c'est juste peut-être un peu plus d'implication. Et puis, ils ont le même problème. On l'avait dit dans notre épisode sur Utah il y a quelques semaines de cela. C'est une équipe qui est totalement dépendante du rendement de Donovan Mitchell quand il y a des problèmes en playoff. C'est-à-dire qu'il fait la pluie et le beau temps. Il fait le playmaking, il doit faire le pull-up, il doit tout faire. Il y a un moment où c'est pas ça, en fait.
Il met des tirs dans cette série.
Il met encore des tirs incroyables. Mais c'est pas sain d'avoir un joueur qui doit faire à ce point la pluie et le beau temps en attaque. Il est personne pour se reposer parfois. Et parce que les autres, c'est des joueurs de fin de chaîne la plupart. Et c'est là où je pense que la blessure de Mike Conley leur fait très très mal.
Tu peux entrevoir en fait deux autres créateurs au sein du Jazz, mais c'est des créateurs unidimensionnels. Ingles, il est capable de créer pour les autres, mais incapable de le faire pour lui-même. Et Clarkson, il voit personne et il crée que pour lui-même. Donc c'est vrai que Donovan Mitchell, il essaye voilà de compenser, de pouvoir faire un peu les deux. Mais clairement, ce qui manque à Utah, c'est un joueur élite à l'aile en fait. Enfin élite, enfin un joueur meilleur que ce qu'ils n'ont déjà à l'aile et qui sur lequel par exemple pourrait se reposer Donovan Mitchell.
Ouais, ou que Bogdanovic, je trouve, Bogdanovic, il est devenu aussi un spot-up shooter. Pour moi, c'était plus que ça, au Pacers, Bogdanovic, par moment. Je trouve qu'il est beaucoup, voilà, dans la réception de création de Donovan Mitchell. Alors oui, il a eu des soucis de blessure et tout, mais c'est peut-être un axe qui pourrait améliorer aussi avec le poste de backup pivot, qui est essentiel pour eux. Et c'est ouf de se dire qu'en fait, Derek Favors, c'est plus, ouais, ça n'a pas fonctionné, quoi. C'est peut-être sur le papier un des meilleurs backup pivot de la ligue. Mais c'est peut-être un backup avec un skill set différent qu'il leur faudrait que Favors.
C'est ça. On en discutait entre nous. C'est Adrien qui avait dit, ah, c'est peut-être une des conséquences des playoffs. Il faut que ton backup pivot, alors déjà, il faut que ça soit un mec, tu dois être capable de jouer 5 mecs écartés quand c'est ton 5 remplaçant. Tu peux pas, tu vois, Dwight Howard, le défaut de Dwight Howard, c'est qu'en fait, c'est un mec, c'est un pivot 3 à l'ancienne. Tu peux pas faire rentrer ce genre de mec-là quand il faut que ton 5 remplaçant ait la possibilité de garder un joueur du 5 titulaire et qu'il puisse avoir tout l'espace. Enfin, franchement. Et c'est vrai que Favors le paye énormément. Enfin, ils ont besoin de mecs à l'aile. À se demander aussi à quel point, et c'est un peu le cas, ça a été le cas des Clippers, à quel point est une équipe qui shoot, tu vas pas inhiber totalement tes joueurs en vue d'une de série de playoffs. Qui auront passé la saison à faire du shoot, et peut-être quand il va falloir trouver d'autres solutions, on peut être un peu de mal. Eh ben les gars, on va peut-être finir en parlant de cette série Clippers Suns. Ça va aller où, selon vous?
Donc là, tu nous demandes un pronostic, en fait.
Oui, mais je j'aime plus trop me risquer à ça. Mais
est-ce
allez,
qu'on part,
on va
est-ce
dire,
qu'on part du principe que Kawhi, c'est fini?
C'est ça la clé en fait. Plus que Chris Paul, parce que Chris Paul, on sait qu'il va revenir.
Les Clippers ne communiquent pas, mais enfin concrètement, ça semble mort hein, pour Kawhi. Donc s'il revient pas, je vois les Suns passer, mais en galérant comme ils ont galéré en fait hier. Hein. Après évidemment, si Chris Paul revient assez vite, c'est-à-dire aux alentours du match 3-4, je vois les Suns passer en 6.
Offensive.
Alan. Les Suns,
ouais,
aussi.
Les Suns, mais comme ça va être compliqué parce qu'offensivement, les Clippers vont mettre des points. Les Clippers vont tout le temps mettre des points. Là où, bah, c'est ouf à dire, mais par séquence, les Lakers et Denver, ils mettaient pas de points contre Phoenix. Donc, c'est ouf à dire pour les équipes qui ont LeBron et Nikola Jokic, mais c'est le niveau où on est aujourd'hui en NBA, ce qui est assez incroyable. Mais si tu continues à avoir Paul George agressif et des role-players qui met dedans, parce que au bout d'un moment, ça va peut-être s'arrêter. Mais Reggie Jackson, il met dedans comme n'importe quoi depuis le début des playoffs.
C'est Batum,
pareil. J'ai vu, je crois, j'avais tweeté ça avant le match 6. Souvent, le match 7, il y a Reggie Jackson qui a mis, je crois, 8 fois plus de 3 paniers à 3 points, un truc comme ça sur les playoffs. C'est incroyable. Enfin, c'est complètement
et
fou.
Et il en prend des durs. Il en prend des durs. Des...
Ouais, il est en
c'est moi, c'est ça qui me rend ouf, quoi. Enfin, je l'ai eu, moi. Moi, je l'ai pratiqué longtemps, le Reggie Jackson. C'était très, très dur à vivre. Et aujourd'hui, enfin, je sais pas aussi si, voilà, c'est une, il a aussi la peur d'une seconde année payée au minimum. Mais voilà, lui et Terrence Mann, il gagne des dollars, clairement, en vue de l'été prochain. Mais aussi, il y a un autre élément, effectivement, les Clippers vont mettre des points. Évidemment, c'est pas non plus acquis, tu peux avoir aussi des crises de réussite inverse qui font que tu ne mets plus trop dedans, mais on s'est aperçu aussi d'une chose hier, c'est que il y a que Devin Booker qui met des tirs, Mika Bridges, et on doit attendre vraiment la toute fin de match pour qu'il prenne enfin l'initiative de marquer. Cam Johnson, il en met un petit peu au début, après il a une traversée du désert jusqu'à la fin du match. En fait, c'est vraiment Booker qui gagne ce match, mais Si on arrive à avoir un Booker aux alentours des 25-30 points avec des role-players qui, quand même, vont au bout d'un moment mettre leur tir extérieur, je pense que quand même, ce sera difficilement supportable pour les Clippers, sachant que les Suns sont toujours dans leur manche la carte Ayton. Et Ayton, on a très bien vu hier qu'il n'y a absolument personne pour le tenir du côté des Clippers.
Ouais, si tu veux être positif côté Clippers, tu te dis que Booker ne fera pas ça tous les matchs. Quoi.
T'as vu Paul George hier aussi.
C'est ça. C'est l'argument. Ouais. Si tu veux vendre un peu les Clippers, c'est toi Ben qui l'a dit, je crois, Ayton, il doit dominer cette série. Il doit vraiment être la troisième option. Et puis Chris Paul va revenir. Et Chris Paul, on l'a vu franchement sur les deux premiers tours de playoff alors qu'il était blessé. Là, il a le Covid, mais là, ça va peut-être lui permettre de remettre un peu l'épaule. Mais Chris Paul, c'est un top 20 NBA. Donc, tu rajoutes un
il
top 20 NBA
incroyable.
dans une série, ça reste quand même majeur. Mais je pense que ça ne sera pas simple. Ça ne sera pas simple parce que les Clippers, offensivement, sont une très bonne équipe.
Exactement.
Après, moi, j'ai très peur de Morris qui... S'ils perdent en plus Morris, là, c'est plus possible. Allez, là, ça commence à devenir beaucoup pour les Clippers.
Kennard, il met des shoots, on l'a vu hier, mais le problème, c'est qu'après, défensivement, tu pourras plus rien faire.
Ouais, et puis, je suis d'accord avec ce que tu dis, Ilias, sur... on a vu hier que, en fait, il manque le lien, c'est Chris Paul le lien, en fait, entre tout ça, et que Booker, c'est beaucoup des joueurs de fin de chaîne, les autres, les Bridges, les Crowder, etc. Mais j'ai peur que... on soit arrivé au stade où ils ont la puissance offensive des Clippers soit pas suffisante pour faire payer tout ça aux Suns. Donc je pense que je donne les Suns aussi. Un peu triste parce que ça aurait pu être une finale de conf assez incroyable, mais l'absence de Kawhi fait très mal. Après, ils ont personne pour faire défendre. Devin Booker, Trae Young, même combat. Hein. Ces mecs-là ont... Ils ont eu personne pour les attaquer sur les finales de... C'est du pain béni pour eux, parce que c'est deux joueurs sur lesquels ton salut, c'est de les faire défendre, et ils tapent des séries où il y a personne à défendre. C'est vraiment, c'est pour ça qu'ils doivent en profiter là.
Ouais, ça. Phoenix n'a pas joué Dame, Phoenix n'a pas joué Murray, Phoenix n'a pas joué Mitchell, et de l'autre côté, ils n'ont pas joué Brooklyn, Atlanta.
Tom nous disait que le meilleur arrière qu'ils avaient rencontré, c'était Caruso.
Qui a fait le meilleur job défensif, c'est Caruso. Ouais.
Mais après, faut aussi revenir sur Devin Booker. Enfin, fort défenseur en face ou pas, enfin peu importe les oppositions, ce qu'il fait dans le troisième quart-temps, c'est d'une autre planète. Le troisième quart-temps hier de Devin Booker, c'est incroyable. Et quand Phoenix commence à être en danger en fin de match, il gagne le match quasiment tout seul. Enfin, on est face à une flopée de phénomènes, des joueurs qui commencent à éclore comme ça, qui sont en train de pousser un petit peu vers l'arrière l'ancienne génération qui malgré tout est encore présente. Mais ce que j'aime bien aussi pour faire un petit parallèle entre Trae Young et Devin Booker, c'est que c'est des joueurs qui sont récompensés aussi pour leur volonté de gagner et d'aller loin en playoff. Ils en ont eu marre du tanking, ils en ont eu marre des constructions un petit peu faites sur le tas avec des projets qui vont s'étendre sur 10 ans. C'est des joueurs qui voulaient jouer les playoffs et aujourd'hui on comprend pourquoi ils voulaient les jouer. C'est des joueurs qui assument et ça, on va dire que dans l'état d'esprit, ça me plaît beaucoup.
Ouais, ils ont aussi eu des bons joueurs à côté d'eux, quoi. Ils
sont et des circonstances favorables, comme pour l'un comme pour l'autre.
Après, c'est pas, ils ont 3 ans d'expérience NBA en différence.
2. Non, 3, 2015 Booker, 2018 Trae Young.
Ouais, il y a 3. Donc là où en fait, pour moi, c'est en fait après ça s'explique dans la géographie NBA, c'est-à-dire qu'à l'ouest, tu dois être beaucoup plus patient, mais c'est vrai que ça vient les récompenser et bravo et franchement, c'est cool. Après, fin d'émission, teasing des H20, ces mecs sont incroyables. Il y a forte probabilité qu'il y ait aucun des deux Booker par exemple dans notre classement des 20 meilleurs joueurs NBA et 17-18, il va pas gagner 5 places hein, alors qu'il fait des playoffs incroyables.
Bien sûr.
Ça illustre un peu la densité actuelle qu'on a en NBA, on peut que s'en féliciter. Bah, du coup les mecs, bravo, c'était très intéressant en ce lundi soir. Les matchs 7 nous ont obligés à décaler tout ça. On se retrouve dans une semaine quand les Hawks mèneront 2-0 et que les Clippers auront remonté à 1-2-1. Comme d'habitude, on vous invite du coup, comme je dis à chaque fois, à nous suivre sur Spotify, à vous abonner partout, parce que le DH20 va arriver un jour et ça va être historique, parce qu'on en parle tous les jours et ce classement va être totalement historique. Donc il faut absolument pas le rater, donc il faut s'abonner partout où vous retrouvez le podcast, sur Twitter aussi. On vous souhaite de bons playoffs et à très vite.
Salut, salut à tous
et bonne loterie à Ilias.
Merci.